Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h46, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Agnès. Bonjour. Buzyn, dans ce studio d'RTL. Un petit point météo, si vous voulez bien. Jusque-là, les inondations n'ont provoqué aucun dégât, heureusement, dans les hôpitaux en région. À Paris, on s'inquiète, la Seine pourrait atteindre un niveau record de 6,20 m. Samedi, il y a deux hôpitaux qui sont en zone inondable, c'est la Pitié-Salpêtrière et l'hôpital Georges Pompidou. Vous surveillez ça de près?
Absolument. Nous avons une cellule de crise qui regarde en temps réel l'évolution et qui anticipe les problèmes. Et nous avons des procédures qui sont tout à fait en ordre et qui seront suivies s'il y a un danger particulier.
Parce qu'une évacuation d'hôpitaux aussi importante avec un nombre de lits considérable, c'est une ingénierie, alors, une organisation.
Tout n'est pas évidemment inondable. Donc voilà, les procédures sont tout à fait opérationnelles et il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Pour l'instant, vous n'êtes pas inquiète?
Non.
Agnès Buzyn, un des gros dossiers de la rentrée, c'est évidemment les 11 vaccins obligatoires. Vous avez signé le décret d'application de la réforme, entre guillemets, mardi. Parution au journal officiel, c'est imminent dans les heures, les jours qui viennent,
oui,
c'est ça?
Demain ou lundi.
On rappelle que ça concerne tous les enfants qui sont nés à partir du 1er janvier dernier, 2018.
Absolument. Tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 devront être à jour du calendrier vaccinal. Je rappelle qu'il n'a pas changé, c'est le même que celui de l'année dernière, sauf que les vaccins qui étaient jusque-là recommandés vont devenir obligatoires et qu'on demandera aux parents qui s'inscrivent en crèche, en collectivité ou à l'école, mais c'est dans quelques années
maintenant. Dans deux ans.
Dans deux ans, donc on a le temps, mais en tous les cas en crèche.
Dans quelques semaines pour le coup, en crèche.
Il faut qu'ils soient à jour du calendrier, c'est-à-dire que les premiers vaccins commencent à 2 mois, et donc évidemment, on leur laisse le temps de les faire. Et surtout, je veux rassurer les parents, s'ils ne sont pas à jour, on permettra des inscriptions temporaires, et on leur laissera trois mois pour se mettre en conformité avec le calendrier, parce que certains parents peuvent avoir du mal à trouver un rendez-vous chez un médecin, et on le conçoit tout à fait. Donc ça n'est pas un couperet, bien entendu, mais...
Autrement dit, ils ne seront pas refoulés de la crèche dans quelques semaines, s'ils sont pas encore à jour. Il y a un délai de 3 mois, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, en revanche, là, le couperet tombera.
Non, c'est-à-dire que s'ils inscrivent leurs enfants, par exemple, en juin, et qu'ils ne sont pas totalement à jour des vaccins qui doivent être faits avant le 6e mois, nous leur laisserons 3 mois supplémentaires pour se mettre à jour. Mmh. Par contre, au mois de septembre, si l'enfant n'est pas vacciné et à jour de ses vaccinations, l'inscription tombera.
Oui, il n'y aura pas de sanction, vous l'aviez dit. En revanche, les récalcitrants ne pourront pas entrer à la crèche et dans 2 ans à l'école, si effectivement ils ne sont pas à jour. Hein, vous confirmez?
Oui, c'est ça.
Ça.
Alors l'école, c'est dans 2-3 ans selon les dates d'inscription.
La vaccination de la grippe, parlons-en parce qu'on en a d'ailleurs, on l'a évoqué dans le journal de 7h30. D'après les pharmaciens qui, pour la première fois dans deux régions, avaient le droit d'y procéder, ça a été un succès. Ils voudraient maintenant avoir le droit d'abord de vacciner toutes les populations adultes et pas seulement les populations à risque. Vous seriez d'accord pour l'an prochain?
Alors, j'attends le bilan de cette expérimentation qui, pour l'instant, m'a l'air extrêmement favorable. Il faut vérifier qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement ou de problème. Donc, en fonction du bilan, nous réfléchirons à une extension car, effectivement, c'est probablement facilitant.
Vous y êtes favorable? Les pharmaciens, ils sont favorables, ils le demandent.
Moi, j'y suis plutôt favorable parce que je trouve qu'il faut rapprocher le moment de la vaccination du moment où on achète le vaccin. Et effectivement, le fait d'acheter un vaccin puis de devoir reprendre un rendez-vous avec un médecin peut faire qu'on oublie de le faire ou qu'on ne trouve pas de rendez-vous chez un médecin. C'est difficile maintenant. Or, nous avons bien vu cette année à quel point la grippe a impacté les urgences des hôpitaux. Nous devons impérativement améliorer la couverture vaccinale. C'est certainement un des moyens de faciliter l'accès aux vaccins.
Donc, vous envisagez d'étendre les populations qui pourraient être vaccinées par les pharmaciens et d'étendre aussi le nombre de régions?
Oui, absolument.
Il y a deux régions pour l'instant.
Tout sera envisagé. J'attends le bilan et je verrai avec les pharmaciens et également avec les médecins et les infirmières qui sont aussi impactés quelque part par cette mesure, comment nous nous organisons pour qu'il n'y ait pas évidemment une profession qui peut se sentir malmenée par cette extension.
La résistance au vaccin en général, dans l'esprit de nombreux Français, vous avez des retours de l'inquiétude de certains parents par rapport à en particulier les 11 vaccins pour les bébés. aujourd'hui.
Les débats n'ont ni amélioré la confiance, ni aggravé la confiance. Pour l'instant, je pense que certains Français ont des doutes, continuent d'avoir des doutes. Je suis absolument certaine que l'obligation vaccinale va les rassurer, parce que le DT polio, qui est un vaccin obligatoire depuis des dizaines d'années, ou le BCG à l'époque lorsqu'il était obligatoire, on voit bien que leur acceptation dans la population française était excellente, parce que les gens savaient que c'était un vaccin obligatoire, que tout le monde l'avait, et qu'il n'entraînait pas d'effets secondaires notables. Ça va être pareil pour les nouveaux vaccins. Je rappelle que 8 enfants sur 10 les ont déjà, et qui ne souffrent pas d'effets secondaires notables. Et je pense que les quelques parents qui ont des doutes vont être rassurés, parce que, évidemment, il ne va rien se passer de grave pour ces enfants qui vont être vaccinés.
La médecin que vous êtes est toujours stupéfaite par ce débat très passionnel autour du vaccin. J'imagine que pour une femme convaincue comme vous l'êtes, c'est compliqué.
Alors, c'est compliqué. Plus généralement, moi, je suis troublée des doutes qu'il y a autour des faits scientifiques. Et c'est un vrai combat pour moi. Je pense qu'il est important que les Français fassent la différence entre une opinion, un sentiment et un fait scientifique. Et je crois que la culture scientifique de notre pays, de notre population, pourrait être améliorée. Alors, pour les vaccins, c'est particulièrement troublant, parce que nous sommes le pays de Pasteur, ça paraissait une évidence, et sincèrement, c'est un débat de pays riche, parce que vous allez dans n'importe quel pays moins développé dans le monde. L'accès au vaccin, c'est l'accès à la santé, et les gens espèrent avoir accès au vaccin. Donc voilà, c'est un débat un peu d'enfant gâté.
Balance ton hosto, c'est pas un débat d'enfant gâté, Madame la Ministre. C'est un hashtag qui fait fureur. Il a été lancé par un médecin normand. C'est parti comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Vous êtes allé voir ?
Alors oui, on m'a rapporté quelques images. Dit, j'ai regardé rapidement. Bon, rien de très surprenant que nous avons aujourd'hui.
C'est-à-dire rien de très surprenant.
2800 établissements de santé, et c'est un éclairage évidemment sur des dysfonctionnements.
Un éclairage, ça veut dire que petite loupe portée sur des dysfonctionnements dans un monde quasi idéal.
Non, bien sûr que non. Et justement, c'est ce que je dis. Tout le monde sait que l'hôpital est en difficulté aujourd'hui. Tout le monde sait qu'un certain nombre d'investissements sont nécessaires dans les hôpitaux. Il y a aussi des hôpitaux neufs. Il y a aussi des services qui viennent d'être faits. Ceux-là ne sont pas montrés. Je visitais récemment une réanimation à l'hôpital Ambroise Paré, ultra moderne, magnifique. Et cela, ça n'est pas montré. Donc voilà, il faut relativiser, non pas qu'il n'y a pas de problème et de graves dysfonctionnements dans les établissements. Alors, ça peut arriver.
Il voilà. Y a parfois de l'humour. Il y a un tweet qui dénonce l'installation d'un feu tricolore aux entrées d'un couloir qui avait un bloc opératoire, parce qu'il y a les deux brancards qui ne peuvent pas passer en même temps.
Émilie Beaujard vous
parlait d'un patient, d'un patient qui, mis dans une salle d'eau, est obligé de... On lui a donné une assiette et une fourchette pour alerter les soignants, parce qu'il n'y a pas de sonnerie dans la salle où il était. Bon. Il y a de l'humour, c'est de l'humour noir souvent. Il y a de l'eau aussi dans les blocs opératoires. Il y a des situations quand même. Oui, et les soignants craquent, Madame la
alors,
Ministre.
D'abord, pour revenir sur l'hôpital, il faut savoir que les hôpitaux sont extrêmement contrôlés, qu'il y a des autorisations avec des visites pour vérifier que les critères d'autorisation de pratiquer un certain nombre de soins sont respectés. Il y a la certification des hôpitaux qui passe tous les 4 ans. Quand les hôpitaux ne sont pas aux normes...
Il y a la fatigue, il y a la lassitude, il y a ces patients qui attendent des heures et des heures dans des couloirs, il y a ça aussi.
Bien sûr.
Votre plan hôpital, Agnès Buzyn, il est pour quand ?
Alors, il y aura des annonces au mois de février. Nous sommes en train...
Des annonces ou un plan structuré ?
Vous le verrez. Vous le verrez, je souhaite qu'il y ait une réflexion globale sur notamment la valeur ajoutée de l'hôpital aujourd'hui dans notre système de santé, sur comment on finance les hôpitaux, leur mode de tarification qui aujourd'hui pousse à une activité
sans qualité. Vous admettez que la tarification là, ça atteint ses limites.
Je suis la première à dénoncer ce mode de tarification. Techniquement, le changement de tarification des hôpitaux est un problème compliqué à régler. Et donc, nous sommes en train d'y travailler. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'en février, des annonces seront faites.
Et des annonces d'une concertation. Dieu sait si les soignants, les médecins ont envie de contribuer. D'une concertation, d'un plan avec déjà des mesures et puis ensuite une réflexion nationale.
Il y aura toujours de la concertation. C'est le mode de travail de l'ensemble du gouvernement, c'est-à-dire que nous lançons des pistes et puis nous concertons et nous aboutissons après la concertation à un plan et à une structuration concrète de mesures.
Un plan d'action pour les EHPAD. La semaine prochaine, il y a une grève nationale dans les EHPAD, où là aussi il y a des situations douloureuses. Vous pouvez ce matin nous donner une ou deux mesures de ce plan d'action ?
Absolument. Donc nous travaillons depuis plusieurs semaines à un meilleur accompagnement des EHPAD qui sont en grande difficulté pour certains d'entre eux. Je rappelle qu'aujourd'hui, la façon dont on finance les EHPAD a été modifiée et que beaucoup d'EHPAD vont être gagnants avec cette nouvelle tarification.
Vous ne reviendrez pas sur cette réforme du financement.
Aujourd'hui, nous savons tout à fait qu'il y a des EHPAD en difficulté. J'ai mis en place, d'abord dans la loi de financement de la sécurité sociale, 72 millions d'euros pour accompagner les EHPAD particulièrement en difficulté. 26 millions d'euros qui seront dédiés à ces EHPAD pour les aider à recruter, à se moderniser.
Ça, c'est les 100 millions du budget 2018.
Ça, sont les 100 millions. Et par ailleurs, nous ajoutons 50 millions d'euros qui vont être donnés aux agences régionales de santé pour qu'elles puissent accompagner au cas par cas, en fonction des difficultés, les EHPAD qui souffrent aujourd'hui d'un manque de moyens.
Vous nous dites maintenant qu'en plus des 100 millions du budget, vous mettez 50 millions pour l'amélioration au cas par cas des EHPAD, et ce sont les agences régionales qui vont les distribuer en fonction de leur diagnostic.
Absolument. Donc 50 millions d'euros à la main des ARS, des agences régionales de santé, et nous leur demandons également de mettre en place des structures d'appui pour aider les EHPAD en difficulté à se réorganiser, à voir comment ils peuvent coopérer entre eux, parce que parfois c'est un problème d'isolement, de petites structures, et donc il y aura un plan global d'accompagnement à la fois financier et à la fois technique.
Mutualisation donc des moyens entre différents établissements, et 50 millions, c'est ce que vous nous dites ce matin, Agnès Buzyn.
En plus des 100 millions que nous avons votés. Mais moi je comprends que les EHPAD ne ressentent pas cette amélioration aujourd'hui. Le vote du budget a été fait en décembre. Le temps de recruter les personnels avec ces 100 millions d'euros qui sont prévus, il faut évidemment un certain temps de mise en œuvre. Et donc, les professionnels vont sentir la différence cette année.
On verra s'ils sont rassurés par vos propos. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Agnès Buzyn, sur RTL.
Et l'entretien est à retrouver, bien entendu, dans son intégralité sur le site rtl.fr.